Les cours du Collège de France, Marc Hainaut, chaire chant, cordes et gravité.
Bonjour, donc je vais commencer. Et comme il est la tradition, je commence par vous poser la question de savoir si vous avez des questions. Donc, et à nouveau, n'hésitez pas à les poser si elles viennent en cours de route. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, j'ai une liste mise à jour des références ici, donc vous êtes libre de vous servir. De toute façon, à la fin du cours, lorsque la liste sera complète, elle sera en ligne sur le site du collège. Mais j'imprimerai également des copies complètes. Donc ici, il manque encore les références des leçons de la semaine prochaine et de la semaine d'après. Alors, donc exceptionnellement, aujourd'hui, je serai l'orateur deux fois, c'est-à-dire pendant la première heure et demie, et puis à 4 heures, ce sera à nouveau moi, jusqu'à 5h et demie. Alors, avant de commencer le sujet officiel de la leçon d'aujourd'hui, je voudrais terminer ce que j'avais commencé la semaine passée. Donc, j'avais commencé à développer la structure carolienne courbe, et je voudrais revenir et compléter ce point. Donc, c'était quatre structures ou géométrie carolienne Vous savez qu'en relativité générale, c'est la géométrie pseudo-riemannienne et tout est déterminé par la métrique d'espace-temps qui est de signature minkowskienne. À partir de là, on construit la connexion, la courbure, et on peut écrire les équations, etc. Que peut-on faire en général lorsqu'on a une structure carolienne courbe, c'est-à-dire une structure dans laquelle on a une... Alors j'appelle ça la métrique, même si ce n'est pas tout à fait une métrique, parce que c'est dégénéré. Donc on a une métrique qui dépend des coordonnées, qui est de signature... donc il y a une direction nulle, un vecteur propre nul, et après c'est que des plus, donc elle est positive semi-définie. Et on a par conséquent un vecteur nul. Donc on suppose qu'on s'est donné une normalisation de ce vecteur nul. Donc ça complète la structure. Donc là, une fois qu'on a G alpha beta, on connaît les directions nulles. Mais comment les normaliser? On suppose qu'on s'est donné une normalisation et on a vu que c'était équivalent à se donner une manière de calculer le volume d'espace-temps. Donc c'est équivalent à se donner ce que j'ai appelé densité qui définit le volume. Alors, ce que j'ai montré, c'est qu'à partir de cette structure, on peut certainement définir un tenseur qui va dépendre des dérivées premières de la métrique, donc ça c'est déjà et qui est un vrai tenseur, qui est en fait, je l'ai appelé la courbure extrinsèque, pour des raisons qui apparaîtront plus clairement par la suite, on parle parfois aussi de seconde forme fondamentale, qui est juste la dérivée de l'i de la métrique le long du vecteur n. Donc là, on n'utilise que des choses qui sont dans la structure, et pour des raisons historiques, avec un facteur moins 1/2. Et donc la dérivée de l'i, peut-être je la développe, donc c'est moins 1/2, donc la dérivée de l'i, c'est la dérivée ordinaire le long du vecteur n, mais ça, ce n'est pas tensoriel, donc il y a des termes correctifs qui tiennent compte du caractère tensoriel de g, et donc qui sont, dans le cas d'un tenseur deux fois covariant, les suivants. Et on peut vérifier que, alors que la dérivée ordinaire, ceci, n'est pas un tenseur, ça ne se transforme pas bien sous les changements de coordonnées, lorsqu'on complète par ces termes, c'est bien un tenseur. Alors on a vu aussi que puisque la métrique est dégénérée, elle n'a pas de métrique inverse, et donc ce qu'on fait sans y penser en relativité générale, à savoir élever les indices. Quand on a des indices en dessous, on passe à des indices au-dessus sans se poser de questions. Ici, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire en général. On ne peut le faire parce que si je peux écrire, par exemple, une informe comme... Donc, pour qu'il existe un vecteur tel que lorsque j'abaisse l'indice, j'obtienne l'informe que je me suis donnée, il faut que cette informe soit transverse. Transverse, c'est-à-dire orthogonal à n, parce que la métrique obéit à cette propriété. Et donc, si j'ai une informe qui n'est pas transverse, il n'existe pas de vecteur qui lui correspond. Alors, par contre, si elle est transverse, on peut trouver un θ, mais ce θ est défini à un multiple de la normale près, donc je vais appeler n la normale. Donc là, il y a une ambiguïté, mais cette ambiguïté ne joue pas si je calcule le produit scalaire, si j'applique ceci pour calculer le produit scalaire de deux objets transverses, parce que si c'est transverse, ça veut dire que lorsque un indice en dessous est contracté par n, ça fait 0. Donc ceci ne se verra pas quand on calcule des produits scalaires. Donc on peut introduire la notion de produit scalaire d'objets covariants, même si on ne peut pas élever les indices de G, lorsque ces objets covariants sont transverses. Alors, j'ai également introduit, donc ici je suis, enfin en fait c'est des rappels, ce que j'ai appelé un système, il y en a plusieurs, de coordonnées adaptées. Et l'idée c'est d'utiliser le fait que lorsqu'on se donne un champ de vecteurs qui est non nul, donc n ne s'annule nulle part, hein, donc sinon il y aura un problème, oméga serait dégénéré, on veut que oméga soit, que le volume soit un vrai volume. Donc les systèmes de coordonnées adaptées, c'est quoi? Ça utilise le fait que tout vecteur non nul peut toujours s'écrire comme vecteur tangent à des lignes de coordonnées. Donc on va introduire une coordonnée qu'on va appeler x0, donc là il n'y a pas de c, hein, qui est... tel que le vecteur n c'est d sur dx0. Donc une autre manière de dire la même chose, c'est que les composantes de n alpha, ben c'est 1 la première et puis c'est des 0. Je travaille à 4 dimensions, c'est pour ça qu'il y a, ben oui, déjà là c'était clair. Alors dans ce système de coordonnées adaptées, la métrique, ben, elle prend une forme simple. Ceci vous dit que la composante, dès qu'il y a un 0 parmi les composantes de G, c'est 0. Donc les composantes ici où il y a un 0, c'est au nul. Et là, j'ai une métrique que j'appelle GAB, qui est, par hypothèse, définie positive, donc de signature euclidienne. Alors le système de coordonnées, il y en a adapté, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas étudier ici l'ambiguïté dans les systèmes de coordonnées adaptées. J'en aurai pas besoin directement, et si j'en ai besoin, je développerai à ce moment-là. Alors, j'avais énoncé un théorème la semaine passée, mais je ne l'avais pas démontré. Donc, quand en géométrie pseudo-riemannienne, on se donne la métrique, et on peut tirer à partir de la métrique une connexion qui est unique si on impose deux conditions, à savoir qu'elle soit sans torsion, c'est-à-dire symétrique, et deux, qu'elle préserve la métrique, c'est-à-dire qu'elle préserve les produits scalaires. Alors, on peut donc se poser la question, existe-t-il une connexion symétrique qui préserve la structure? Et la réponse est, et c'est une grande différence avec la structure, avec la géométrie pseudo-riemannienne, c'est que une connexion symétrique, donc, alors je vais écrire les choses, une connexion symétrique, donc je vais l'écrire directement en termes des symboles de Christoffel correctement. Donc symétrique, ça veut dire que elle est symétrique dans ses indices du dessous. Donc c'est aussi équivalent à pas de torsion. Donc, c'est une des conditions qu'on impose en relativité générale. Hein. Donc on regarde si on peut faire la même chose ici. Une connexion symétrique sans torsion, donc une connexion symétrique, pardon, qui préserve la structure carolienne, je ne vais pas l'écrire, donc qui préserve la structure, bien entendu celle qu'on regarde, c'est-à-dire carolienne, n'existe ou existe si et seulement si la courbure, ce que j'appelle la courbure extrinsèque, est égale à zéro. Donc si vous me donnez une structure carolienne quelconque, avec ceci différent de zéro, il n'y aura pas de connexion symétrique qui préserve la structure. Et en plus, si la courbure extrinsèque est nulle, dans ce cas, gamma alpha beta gamma n'est pas unique, est déterminé à un tenseur d'espace symétrique près. Donc on va lui donner un nom, peut-être SAB, qui est égal à SBA, donc, si c'est symétrique, près. Et donc, j'avais énoncé le théorème la fois passée, et je voudrais le démontrer maintenant. Alors, la démonstration est directe, mais ça vaut la peine de le faire. Elle est directe quand on se place dans un système de coordonnées adaptées. C'est le plus facile. C'est un théorème qui, si elle existe dans un système de coordonnées, elle existe dans tout système de coordonnées. Donc, puisque c'est un théorème qui est indépendant du système de coordonnées, autant voir si on peut le démontrer dans le système de coordonnées où la vie est la plus facile, donc un système de coordonnées adapté. Alors, démonstration. Eh bien, on va d'abord dans ce système coordonnées adapté, donc qui préserve la structure. Oui, je n'ai pas dit ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire que ça préserve la structure? Ça veut dire que la dérivée covariante des objets qui définissent la structure est nulle. Donc il faut que la dérivée covariante de n bêta soit égale à 0 et la dérivée covariante de g alpha bêta est égale à 0. En relativité générale, il faut que je change les noms des indices, bêta gamma. En relativité générale, on impose ça et ça détermine complètement gamma. Ici, on a aussi n, donc on se dit, bon, on va imposer ça. Et on va regarder si on peut trouver gamma et la réponse n'est pas toujours. Alors, il faut préserver la normale. Donc il faut que le transport parallèle de la normale dans n'importe quelle direction soit nul. Alors là, j'écris d'abord, donc 0 doit être égal à ça. Donc déballons la dérivée covariante. Donc il faut qu'on ait ça. Non. Alors, je l'ai mis là. Je me place dans un système de coordonnées adaptées. Dans un système de coordonnées adaptées, c'est facile. Les composantes de la normale sont presque toutes nulles, sauf une qui est égale à 1. Mais c'est constant. Donc les dérivées de n alpha sont nulles. Donc le premier terme est nul. Et ici, ça va se réduire la sommation à l'indice 0, bêta alpha fois 1. Donc on a ceci. Donc là, pour que la condition 1 soit remplie, donc on préserve la normale, il faut que gamma bêta 0 alpha soit égal à 0. Puis maintenant, imposons la deuxième condition. On veut que les dérivées covariantes de la métrique, bon alors je vais changer les indices, rho sigma, soient égales à 0. Alors là, on déballe. C'est quoi ça? C'est d'abord la dérivée ordinaire, et puis j'ai des termes qui contiennent la connexion. Donc je vais avoir gamma alpha rho, mettons lambda g lambda sigma, moins gamma alpha sigma lambda g rho lambda. Alors examinons ces conditions pour toutes les valeurs possibles des indices. Et je vais d'abord regarder rho égale à sigma égale à 0. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose parce que g rho sigma, c'est nul, donc ça fait 0. Et puis si un des deux indices ici, sigma ou rho, dans ce cas-ci, est nul, il y a ces composantes qui, avec un 0, sont nulles. Donc ça n'apporte rien, c'est automatique. Je ne mets rien. Alors maintenant, supposons que rho soit égal à 0 ou sigma égal à 0. Donc un des deux est égal à 0. Bon, j'aurais pu faire ça tout de suite, mais je décompose. Donc supposons que ce soit rho qui soit égal à 0. Ben, ce terme-ci est de nouveau nul parce que zéro, n'importe quoi, c'est zéro. Ce terme-ci est nul parce que zéro, n'importe quoi, c'est zéro. Donc, il faut juste regarder ça. Mais vous voyez que si ρ est égal à 0, c'est ce terme, j'ai ceci, donc c'est égal à 0. Donc ça n'apporte rien de plus que ce qu'on savait déjà. Et donc la seule équation intéressante, les seules équations, parce qu'il y a encore l'indice alpha intéressante, c'est lorsque ρ est un indice spatial, que j'appelle R, et sigma est un indice spatial, que j'appelle S. Donc dans ce cas-là, l'équation se réduit à d alpha grs moins gamma r alpha g. Alors c'est un s. Mais on sait que seules les composantes spatiales de g sont non nulles, donc j'utilise tout de suite ces informations. Donc c'est l prend les, c'est un indice latin, moins gamma l s alpha g r l doit être égal à 0. Alors vous voyez que, à nouveau, on va regarder d'abord alpha égal à 0. Alors si alpha est égal à 0, j'ai quoi comme équation? D0 de GRS. Mais alors ici, vous voyez que si la connexion est symétrique et que alpha est égal à 0, parce qu'on a vu là, tout à l'heure, c'est 0. C'est ça qu'on demande. Donc là, j'ai utilisé le fait que la connexion était symétrique. Hein. Donc s'il y avait de la torsion, s'il n'était pas symétrique, on s'en sortirait. Ça, les gens l'ont étudié et ont montré que c'était vrai. Mais ici, je me place dans cette condition-ci. Donc voilà ce qu'il y a. Bon, donc vous voyez que cette équation, on peut y satisfaire que si la dérivée temporelle de GRS a le bon goût d'être égale à zéro. Si elle n'est pas égale à zéro, il n'y a pas moyen de trouver un gamma, puisqu'il n'y a plus rien, tel que cette équation soit satisfaite. Si D0GRS est différent de 0, ça ne marche pas. Or, D0GRS, dans la base adaptée, c'est précisément KRS, au facteur moins 1 demi près. Parce que la dérivée de l'I dans la base adaptée, elle se réduit au premier terme, qui est la dérivée de G, puisque tout le reste ici va être égal à 0. Donc, dans des coordonnées adaptées, la dérivée de l'I, donc K alpha beta, se réduit à cette partie-ci, et vous voyez que la seule partie non triviale, c'est lorsque alpha et bêta sont des indices latins, on a un KB non, qui est en général non nul, mais donc vous voyez que ceci, ça peut se réécrire comme ceci, c'est équivalent à K étant, oui j'avais montré ça, hein, K alpha bêta, c'est un tenseur, on croit que c'est un tenseur qui a beaucoup de composantes, mais il y en a beaucoup qui sont nuls aussi, parce qu'il satisfait à cette équation, hein. La dérivée qu'on obtient en multipliant par n ceci, je crois que je l'avais fait, et on utilise le fait que la dérivée de l'i de n, le long de n, c'est égal à 0. Donc k est un tenseur transverse, donc il n'y a que k ab en coordonnées adaptées, donc ceci c'est en fait équivalent à k alpha beta est égal à 0. Donc vous voyez qu'une condition nécessaire pour qu'il existe une telle connexion est effectivement que ça soit égal à 0. Et voyons si elle est suffisante, parce qu'on n'a pas encore examiné toutes les équations. Lorsque alpha est égal à A, qu'est-ce que me dit cette équation? Il faut que DAGRS moins gamma RALGLS moins gamma LSAGRL est égal à 0. Mais ça, c'est précisément l'équation qui définit la connexion de Lévi-Civita à partir de la métrique spatiale. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle me dit cette équation? Oui, gamma existe, est unique. Ce gamma purement spatial existe et est unique. Et c'est précisément la connexion métrique construite à partir de la métrique spatiale, qui est non dégénérée. Donc là, on peut appliquer les théorèmes de géométrie euclidienne, de signature euclidienne, enfin peu importe d'ailleurs, de géométrie qu'on connaît lorsque la métrique est non dégénérée. Donc gamma existe et est unique, donc celui-ci existe et est unique, il est donné par une expression qui fait intervenir les dérivés des G. Et d'où vient l'ambiguïté? C'est qu'il y a certaines composantes de gamma qui n'apparaissent pas dans les équations. Lesquelles? On sait ce que ceci vaut. On a ça. Donc dès qu'il y a un zéro en dessous, on a les gamma, mais vous voyez que gamma avec un zéro ici au-dessus et des indices latins en dessous n'apparaît pas, est complètement indéterminé. Et puisqu'on a supposé qu'il n'y avait pas de torsion, c'est ça, c'est symétrique. Vous voyez que l'ambiguïté dans gamma, dans la connexion, c'est effectivement un tenseur symétrique à deux indices d'espace. Voilà. Alors, on peut aller plus en avant, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question. D'abord, le théorème est établi. Donc, il y a des questions d'abord sur le théorème et la démonstration. Donc, le théorème étant établi, quelques commentaires. Tout d'abord, vous voyez que même si la courbure extrinsèque n'est pas nulle, donc on va, cette équation-ci, elle sera violée, enfin, c'est-à-dire lorsque je réduis les indices ici à 0 RS, c'est pas possible. Mais lorsque j'ai quelque chose qui est purement spatial, je peux toujours construire une connexion d'espace. Bon, elle ne fait pas partie d'une connexion d'espace-temps qui préserve tout, mais en tout cas, une connexion d'espace qui préserve la métrique d'espace. Bon, ça existe toujours. Que cette métrique dépende du temps ou pas. Ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, cette connexion, si la métrique dépend du temps, donc si la métrique ici dépend de x0, ben, la connexion va dépendre de x0. Hein, c'est d'ailleurs c'est pour ça que ça va poser des problèmes à d'autres endroits. Donc ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que pour avoir une connexion, on peut se dire, bon, on va relâcher certaines choses, et en particulier on va autoriser de la torsion. C'est un développement intéressant que les gens ont poursuivi. Comme je n'en aurai pas besoin dans mon cours, je ne vais pas en parler. Mais effectivement, c'est une possibilité. Ou une autre possibilité de se dire, au lieu de relâcher cette condition, on peut se dire, peut-être on va relâcher cette condition. Puisque ça coince quand je regarde cette composante-ci, on va peut-être demander que la dérivée, on ne va pas imposer que la dérivée covariante de la métrique dans la direction de la normale soit nulle. Bon, donc plusieurs choses peuvent être faites, donc ce n'est pas la fin du monde, mais il faut relâcher les règles habituelles. Bon, je pense que j'aurai l'occasion de reparler de cela lorsqu'on va étudier des Lagrangiens et coupler la matière à la gravitation, mais pour le moment, je n'en dirai pas plus. Je voudrais, à partir de ce qu'on a vu, construire un Lagrangien qui conduit à des équations du second ordre. Donc je voudrais maintenant écrire des équations dynamiques pour la métrique. Hein, la théorie d'Einstein, c'est une théorie qui vous dit comment la métrique d'espace-temps évolue. Donc c'est des équations du second ordre pour la métrique d'espace-temps. Donc on voudrait voir s'il y a moyen de faire la même chose ici, c'est-à-dire de construire des équations du second ordre pour G alpha beta, pour la structure. Alors, ça va être gravitation cette fois. Donc on va essayer d'avoir des équations, c'est-à-dire introduire de la physique. Et évidemment, comme en théorie d'Einstein, on va demander que les équations soient invariantes par changement de coordonnées. C'est-à-dire que si vous avez une solution dans un système de coordonnées, elle soit également solution dans n'importe quel autre système de coordonnées. Donc par changement de coordonnées, on garde une solution, reste une solution. Donc on veut des équations tensorielles. Et donc on voudrait construire un Lagrangien qui conduit à des équations tensorielles et écrire des équations qui sont tensorielles. Alors, vous voyez que le fait qu'on ne puisse pas construire de connexion en général nous limite beaucoup dans les possibilités. Donc, de ce point de vue-là, les choses sont plus simples. En fait, on veut des dérivées pour avoir des équations dérivées partielles, la propagation. Donc, il faut chercher des tenseurs qui contiennent les dérivées. Mais un candidat, c'est K. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de construire un Lagrangien qui soit quadratique en les dérivées, parce qu'on veut des équations quadratiques en les dérivées premières pour avoir des équations qui soient du second ordre. Et donc, ben, vous voyez que ça voudrait dire quadratique en K. Alors, est-ce qu'on peut construire des objets quadratiques en K qui sont covariants? Alors, a priori, donc ça veut dire qu'il faut saturer des indices. A priori, on peut se dire, ah ben c'est pas possible parce que je viens de vous expliquer pendant très longtemps qu'on ne pouvait pas élever les indices parce que la métrique était dégénérée. Oui, mais K a la bonne idée d'être transverse. Donc, même si on peut, donc on peut élever les indices, il y a une ambiguïté. Mais quand je calcule, quand je sature les indices, l'ambiguïté qui est dans le cas avec les indices au-dessus est proportionnelle à n, et n, comme le cas est transverse, tombe. Donc ceci est bien défini, c'est ce que je vous ai dit. Les produits scalaires sont bien définis pour les tenseurs transverses. Hein, donc je pense que j'avais vérifié cette propriété, mais comme j'ai dit, elle est très facile. Hein. On prend la dérivée de l'i, de la relation, en fait, je peux peut-être même l'écrire ici, la dérivée de l'i le long de n de g alpha bêta n alpha, n bêta, pardon, puisque ça c'est égal à 0 partout, lorsque je prends la dérivée de l'i ce sera 0, et vous voyez qu'ici il y a deux termes, la dérivée de l'i de g, ça agit comme une dérivation, et la dérivée de l'i de n, mais la dérivée de l'i de n selon n, c'est quelque chose d'antisymétrique, donc c'est 0. Donc effectivement, ceci implique ça. Alors, ça, c'est une possibilité. Et puis, aussi, on peut prendre la trace de K. Qu'est-ce que ça veut dire, la trace de K? Ça veut dire que j'élève cet indice-ci. Et donc, ça, on sait que c'est défini à un multiple de la normale près, comme ceci. Mais si maintenant... Où ceci est transverse. Si maintenant je fais alpha égale à bêta, ceci ne va pas contribuer. Hein, pourquoi c'est transverse? Parce que j'ai aussi que n alpha, ça c'est égal à 0. Hein. Donc je ne peux pas mettre n'importe quoi là, c'est un tenseur transverse, c'est un covecteur transverse. Donc comme il est transverse, quand je prends la trace, ça ne joue pas cette ambiguïté. Donc j'ai aussi K carré que je peux ajouter ici. Et je prétends que la bonne combinaison, je vais vous expliquer pourquoi c'est la bonne combinaison, c'est ceci. Et donc il faut une densité, donc je vais multiplier par l'élément de volume, donc qui fait intervenir le choix de la normale, hein, que j'ai appelé oméga. Et donc ceci, c'est un Lagrangien, donc ça va me donner une action qui dépend de la métrique à travers K. Et de la normale ou de manière équivalente oméga à travers oméga, et c'est donc l'intégrale de L d4x. Et donc les équations, disons, de la gravitation carolienne, en tout cas basées sur ce Lagrangien, et tout de suite nous allons voir qu'il y a une alternative, s'obtiennent en extrémisant cette action par rapport à oméga et g alpha bêta. Et on obtiendra des équations du second ordre, puisque qu'alpha bêta dépend des dérivées premières, et ce sont les équations analogues des équations d'Einstein pour la gravitation carolienne. Alors, justement, et ça va justifier le... Parce que ici, je pourrais mettre n'importe quel facteur, hein, là et là. Pourquoi je prends ça? Mais en fait, parce que ce Lagrangien est tel que si je pars du Lagrangien d'Einstein, ou Einstein-Hilbert, et que je fais C tendant vers 0 d'une certaine manière, que je vais vous expliquer, on va obtenir ce Lagrangien-ci. Donc on peut voir ce Lagrangien-ci comme la limite carolienne du Lagrangien d'Einstein. Après tout, c'est ce qui nous intéresse. Alors, je vais d'abord dire quelques mots qui seront utiles pour la suite, et puis je vais explicitement le montrer. En fait, Il faut, quand on, C étant une constante qui a des dimensions, il faut toujours être prudent quand on dit C tend vers zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que C étant, ayant des dimensions, je peux toujours changer mes unités pour qu'il soit égal à 1, dès qu'il est différent de zéro. Donc c'est un peu... il faut être précis, il faut dire ce qu'on maintient fixe, constant, ce qui... Bon, donc il faut être prudent. Alors... Le cas qui va nous intéresser est le cas suivant. J'ai le champ de gravitation. C'est le champ de la théorie d'Einstein. Ce champ dépend des coordonnées, dépend du temps et dépend des coordonnées spatiales. À partir de ce champ, je peux fabriquer un objet qui a les dimensions d'une vitesse, à savoir, bon, dès que j'ai une quantité f, un champ quelconque f, je peux calculer le rapport des zéros, je peux comparer les dérivées spatiales, on fait ça, par rapport aux dérivées temporelles. Peut-être je le fais dans l'autre sens. Oui. Ceci, c'est... Est-ce que je préfère le faire dans l'autre sens? C'est juste que ça me perturbe. Donc je vais plutôt faire quelque chose qui a la dimension d'une vitesse. Donc, quelque chose qui a la dimension d'une vitesse, c'est d0f sur d0k. Donc je compare les gradants spatiaux aux dérivés temporels. Donc ça, c'est 1 sur c. Là, c'est 1 sur... 1 sur une distance, donc ça a bien les dimensions d'une vitesse, quelle que soit f. Les dimensions de f peuvent être quelconques, ça disparaît. Donc ça, c'est une dimension d'une vitesse. Donc je vais me poser la question de savoir que deviennent les équations d'Einstein à la limite où ce rapport est beaucoup plus grand que c. Et où donc c, je peux, en première approximation, considérer que c'est égal à zéro. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, de manière exprimée différemment, que deviennent les équations d'Einstein à la limite où les dérivées temporelles dominent les dérivées spatiales. Et donc, où, dans le Lagrangien, en première approximation, je ne regarde que les dérivées temporelles. Puisque si j'ai plusieurs termes qui ont la même structure, l'un fabriqué avec des dérivées temporelles, l'autre avec la même structure, mais où les dérivées temporelles sont remplacées par des dérivées spatiales, je vais supposer que celui qui contient les dérivées temporelles est le terme dominant, et en première approximation, c'est lui que je considère. Donc je vais regarder ce développement. Et je prétends que si vous partez du Lagrangien à Einstein-Hilbert, et que vous faites ce que je vous ai dit de faire maintenant, vous allez obtenir ce Lagrangien ainsi. Et donc on peut réellement voir ça comme le point de départ, imaginons un développement en puissance de C, comme le premier terme dans un développement en puissance de C, qui a un sens, parce que là je vous ai dit, on compare des vitesses avec des vitesses, et on suppose que quelque chose qui a les dimensions d'une vitesse est beaucoup plus grand que C. Alors pour vous démontrer ça, donc que si vous prenez Einstein-Hilbert, vous prenez cette limite, vous obtenez ça. La manière la plus rapide de procéder est de passer au formalisme hamiltonien. Et pourquoi c'est la plus rapide? Parce qu'en fait, dans le formalisme hamiltonien, on sépare dérivé temporel de dérivé spatial. Donc l'hamiltonien, est prêt à prendre cette limite. Donc je vais réécrire le Lagrangien d'Einstein-Hilbert en termes hamiltoniens, et puis on va prendre la limite. Et vous allez voir que c'est très facile, parce que tout a été... Parce que dans le formalisme hamiltonien, on isole les dérivées temporelles. On fait jouer aux dérivées temporelles un rôle particulier. Alors, là, vous allez devoir me croire. Je vais vous écrire l'hamiltonien de la relativité générale. Je ne vais pas le dériver ici. Je pense que je l'ai déjà fait, pour ceux qui sont venus dans les années précédentes, à des cours des années précédentes. Donc, je vais juste utiliser le résultat, mais je vais l'expliquer. Donc, ceux qui n'ont pas vu la dérivation... Je dois juste me croire, mais j'espère que je vais rendre le Lagrangien, la forme hamiltonienne de l'action compréhensible et intuitive. Donc, lorsqu'on passe au formalisme hamiltonien, donc ça c'est Einstein. Donc Einstein est caractérisé par une métrique d'espace-temps, mais il se fait que donc, et en fait, ceci, c'est des travaux qui sont dus à Arnowitz, Deser et Misner. Et peut-être je devrais mettre Dirac d'abord, parce qu'il l'a fait avant. C'est eux qui ont écrit la relativité sous forme hamiltonienne. Alors, ils ont montré que les composantes de la métrique ne jouaient pas toutes le même rôle. Les composantes spatiales apparaissent comme des variables vraiment dynamiques, mais les composantes avec un indice 0, donc G0 bêta, pardon, donc il y en a 4, elles jouent le rôle de multiplicateur de Lagrange. Alors, je clarifie. Hein. Donc, vous avez demandé des multiplicateurs de Lagrange de quoi ? Ben, je vais vous le dire. Et alors que l'espace des phases, ils l'ont montré aussi, est construit en introduisant des moments conjugués à G à B. Donc, quand on a les Q, il faut aussi des P pour avoir l'espace des phases. Et les moments conjugués au G à B, je vais les appeler comme eux l'ont fait, pi à B. Donc l'espace des phases, c'est pi à B, G à B, qui sont des champs qui dépendent de x à tout instant t, et puis il y a les multiplicateurs de Lagrange. Et donc l'action sous forme hamiltonienne d'Einstein va contenir la métrique spatiale, bien sûr, mais aussi son moment conjugué, on travaille en hamiltonien, et à côté de ça va dépendre des G0 bêta, et ils ont montré que ces quatre fonctions, il était pratique de les paramétriser légèrement différemment, donc G00, G0B, d'écrire en termes de quatre autres fonctions qu'ils ont appelées le laps, la fonction de laps, et le vecteur de déplacement, le vecteur de shift. Donc il y en a quatre ici, et il y en a quatre là aussi, donc c'est juste un changement de variable. Donc, en d'autres termes, la métrique se décompose en une partie spatiale, et une partie avec un indice temporel, et c'est uniquement la partie spatiale qui a des moments conjugués. Et donc, l'action hamiltonienne, ont-ils montré ? Elle a la structure hamiltonienne standard, c'est-à-dire PQ point moins H. Donc il y a d'abord le terme PQ point, c'est-à-dire, dans notre cas, pi AB, G point, donc ça c'est la dérivée temporelle. Hein. G AB. Et puis il y a H, et ils ont montré que H était en fait une combinaison faisant intervenir linéairement ces fonctions-là. C'est pour ça que c'est utile de faire la redéfinition, parce qu'alors N et NK apparaissent linéairement dans le Lagrangien, et les coefficients sont des fonctions de l'espace des phases, c'est-à-dire dépendent de pi AB et de G AB. Donc je vais écrire ça comme ça. Que je dois vous écrire. Donc ça, c'est juste... Alors qu'est-ce que c'est H et qu'est-ce que c'est HK? Alors H... Et je vais l'écrire avec les constantes de couplage et C, parce qu'on veut prendre la limite en fin de compte. C'est 16 pi G sur C4, sur C carré apparemment. Bon. Enfin, ça, ce serait C4, ça ne changerait rien, mais. Ah oui, sur C carré. GIJMN. Alors, je n'ai peut-être pas 1 sur racine de G. Donc ça, c'est la métrique spatiale. Donc tout se réfère maintenant à la géométrie spatiale. 1 sur racine de G, pi AB, pi AB, moins 1 demi pi carré. Alors, pi AB, pi AB, on sature les indices à l'aide de la métrique spatiale, donc ça c'est clair. Pi, c'est la trace de pi, c'est pi AA, c'est pas le nombre pi. Hein. Voilà. Et puis, ils ont montré que le terme suivant, c'était moins... C4 sur 16 pi G fois la courbure spatiale. Donc ça, c'est la courbure d'espace, donc construite à l'aide des GAB. Donc ça, c'est ce qu'ils ont montré. Et j'ai laissé un petit espace là pour, en fait, réécrire. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont amusés à calculer l'hamiltonien dans le cas où la métrique d'espace-temps était de signature euclidienne. C'est intéressant parfois de regarder la gravitation euclidienne. Et ils ont montré qu'en fait, on avait le même Hamiltonien, etc. sauf que le signe ici relatif changeait. Et donc, bon, juste pour m'amuser, je vais mettre un epsilon ici, où epsilon est égal à moins 1 lorsque la signature est minkowskienne et est égal à plus 1 quand la signature est euclidienne. Donc c'est juste un indicateur de la signature que je mets là. C'est intéressant de savoir que c'est là que la signature de l'espace-temps apparaît, parce que pendant très longtemps, les gens ont cru que c'était peut-être ici, qu'il y avait un plus là. Bon. Non, le plus n'est pas là, il est là. Donc ça, c'est un peu pour des raisons historiques. Et puis HK, c'est moins 2 fois pi k m par m, où ceci est la dérivée covariante d'espace. Donc tout est réécrit, on décompose dans l'espace et le temps, et tout est écrit en termes d'objets d'espace. Donc la dérivée covariante, c'est une dérivée covariante d'espace, et la dérivée covariante construite à l'aide de la métrique d'espace. Mais donc, vous voyez que c'est... Bon, là, il n'y en a pas, mais là, il y en a un. Alors, n, c'est des multiplicateurs de Lagrange, à savoir, quand vous variez l'action par rapport à n, bien, vous obtenez que h est égal à 0, et par rapport à nk, vous obtenez que hk est égal à 0. C'est ce qu'on appelle les contraintes de la relativité générale. Donc le fait que la relativité générale soit une théorie invariante pour les changements de coordonnées, donc il y a une sorte d'invariance de jauge, ça implique nécessairement la présence de contraintes, et les voici. Bien, donc, ceci est une réécriture de l'action d'Einstein sous forme hamiltonienne. Toute action peut s'écrire sous forme hamiltonienne. C'est un peu plus compliqué pour Einstein parce que justement il y a cette invariance de jauge et ça se traduit par la présence de contraintes. Alors en principe, si l'espace est ouvert, il y a peut-être des termes de surface en plus, mais ce n'est pas ça qui va m'intéresser. Donc supposons que soit on s'y intéresse plus tard, soit l'espace est fermé. Bien, alors voyez que si j'ai envie de prendre la limite C tendant vers 0, là, il n'y a pas de problème, mais ici, ça coince. Mais c'est multiplié par n, qui est une variable indépendante. Donc je peux redéfinir n de manière à absorber ce facteur-là. Donc je vais réécrire le terme nh comme n, disons, je rescaled, r, renormalisé, ou, fois h, renormalisé, où ce facteur-ci, je le mets dans n, et je prends la limite c tendant vers 0 en gardant ce n-là constant. Le n renormalisé constant. Donc ça veut dire que le n ancien n'est pas constant. Il tend vers 0 ou l'infini, il faut voir où se mettre les c. Bon. D'accord ? Donc je vais prendre cette limite. Alors dans ce cas-là, bon, c'est clairement quelque chose que je peux faire quand c'est différent de 0, mais puis après on prend la limite, et comme il n'y a rien qui se passe quand on prend la limite, on va regarder la théorie qui en résulte. Vous voyez que dans ce cas-là, H tend vers un H que je vais appeler E. Alors ce n'est pas pour Einstein, c'est pour électrique. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui est juste donné par le terme cinétique, c'est-à-dire 1 sur racine de g ce terme-ci disparaissant. Hein, si j'absorbe ça, en fait j'ai encore un C6 en fait qui va apparaître et donc ça tend vers 0 et le HK tend vers reste HK. Mais puisque c'est de la théorie obtenue à la limite, j'ai écrit un E ici, mais c'est le même. Alors, vous voyez qu'effectivement, ça correspond à ce que je vous ai dit. On ne garde dans la contrainte Hamilton, cette expression-ci qui joue le rôle d'Hamiltonien, on ne garde que la partie en les moments conjugués. Les moments conjugués, c'est essentiellement les dérivées temporelles. Rappelez-vous, quand on passe du Lagrangien à l'Hamiltonien, on définit les moments conjugués comme dl sur dq points. En général, c'est pour les systèmes les plus simples, c'est q points. Donc c'est les vitesses. Donc les pi, les moments conjugués, c'est les vitesses. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit le terme cinétique domine le terme qui joue le rôle de terme potentiel. Donc la dérivée cinétique est du champ est la partie dominante. Et donc ça correspond un peu à l'intuition que je vous avais donnée. On ne garde que les termes qui contiennent des dérivés temporels lorsqu'on a deux termes qui ont la même structure. Donc celui-ci a des dérivés spatiales, mais il vient tout seul, donc il reste là. S'il y avait un terme avec des dérivés temporels ici, c'est celui-là qu'il faut garder, mais comme il n'y a que des dérivés spatiales, il reste là. Et donc voilà, donc là, alors, ceci vous donne donc l'action à la limite, que je vais appeler carolienne électrique, qui dépend exactement des mêmes variables. Mais donc, qui va avoir simplement, on a dx0, d3x, puis ab, g.ab, qui va simplement différer par la structure, par la forme de he moins nk hek. Alors, quel est le lien entre ce que j'ai écrit ici et ce que j'ai écrit là? Ben en fait, si vous écrivez la forme hamiltonienne de cette équation, de ce lagrangien-là, vous obtenez ceci. Ou une autre manière de faire, si vous éliminez les moments conjugués à partir de leurs équations du mouvement, donc vous allez, si vous variez par rapport à pi ab, vous allez avoir g.ab égale quelque chose qui contient pi ab, vous éliminez, vous substituez dans l'action et vous retombez sur cette action-ci. Donc ça, c'est réellement la forme covariante de cette action carolienne sous forme hamiltonienne. Et pour des raisons que je vais expliquer tout de suite, on l'appelle la limite électrique, que je vais en partie expliquer tout de suite. Ça va ? Alors, donc ça, c'est une théorie des champs qui obéit à l'invariance carolienne, donc qui incorpore l'invariance carolienne. Alors une propriété intéressante de cette théorie, c'est toujours très important de calculer les crochets de Poisson des contraintes. Vous savez, elle a aussi le même nombre de contraintes, elles prennent différentes formes. Et je vais écrire que la plus importante, comme j'ai quand même pas un temps infini. Dans le cas de la théorie d'Einstein, on obtient quelque chose de non abélien. En fait, je vais vous l'écrire. On obtient hk de x plus hk de y, où l'indice est élevé à l'aide de la métrique d'espace, la dérivée du delta x moins y. Mais il se fait que il y a probablement un moins epsilon ici, je ne vais pas l'écrire. Donc il y a quelque chose qui dépend de la signature qui apparaît là, ce qui est une autre manière de comprendre la limite. Vous voyez que faire C tendant vers 0, c'est la même chose que faire G tendant vers l'infini, où epsilon égale à 0. Donc c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre euclidien et minkowskien, si vous voulez, ce qui correspond bien à la structure carolienne, entre moins 1 et plus 1, il y a 0. Mais enfin, donc ça c'est Einstein. Et ces relations de ce crochet de Poisson ont un sens profond sur lequel je reviendrai la semaine prochaine. Et donc, je calcule le crochet de Poisson en me rappelant que pi est conjugué de g. Donc, c'est de là que q et p, le crochet de Poisson de q et p, c'est 1. Si vous calculez le même crochet de Poisson en théorie de Carole, là, c'est encore plus simple. Parce que vous voyez qu'il n'y a que des pi. Enfin, c'est local aussi, en plus. Bon, il y a des G ici qui font descendre, mais comme c'est local, tout va être au même point. Et en fait, donc, le crochet de Poisson étant antisymétrique, ça fait 0. Donc, les crochets de Poisson, en théorie de Carole, des générateurs H, sont beaucoup plus simples. Et on peut démontrer que c'est vraiment une conséquence de l'invariance carolienne. Comme je l'ai dit, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Et en fait, c'est une garantie que les autres crochets de poisson, donc de H avec HK ou de HK entre eux, bon, des HK entre eux, c'est clairement pas changé. Des H avec HK, on peut montrer que c'est les mêmes, ça ne change pas non plus à la limite, parce que H a une covariance bien définie, c'est une densité de poids 1, et donc ça, et HK génère les diffeomorphismes d'espace, donc ça se transforme bien. Mais donc c'est réellement ceci les relations qui distinguent la théorie einsteinienne de la théorie carolienne. Et c'est fort important que ces contraintes obéissent à cette propriété, ça montre qu'elles sont ce qu'on appelle de première classe, c'est-à-dire que le crochet de poisson des contraintes entre elles est nul en vertu des contraintes, ne fait intervenir que les contraintes. Et c'est lié à l'invariance de jauge, donc c'est une condition de cohérence dans notre cas. Mais ceci suggère la chose suivante. Il y a peut-être moyen de prendre une autre limite de la théorie dans laquelle on garderait d'autres termes. Et en fait, vous voyez que la réponse est oui, c'est possible. Je peux absorber, au lieu d'absorber ce coefficient-ci dans une redéfinition de n, je peux absorber ce coefficient-ci dans une redéfinition de n. N, une variable, je peux jouer avec elle comme je veux, c'est une variable indépendante, et je peux prendre des limites où n se comporte d'une certaine manière ou n se comporte d'une autre. Bon. Donc je peux absorber ça dans n, mais alors auquel cas je vais renforcer les... Comme c'est du C4 et là du C carré, je vais avoir une puissance de C positive ici. Et donc quand je vais faire C tendant vers 0... Ce n'est pas ce terme-là que je vais garder, mais c'est l'autre. Donc il existe une autre limite où le H deviendrait, absorbons le epsilon aussi dans le N, R racine de G. Donc il ne dépendrait plus que de la métrique, il n'y a plus de moment conjugué. Donc c'est. Alors à nouveau, cette limite est cohérente en ce sens que les contraintes restent de première classe. Les contraintes ont toujours la propriété que si vous calculez le crochet de poisson des contraintes entre elles, vous retrouvez les contraintes. Et dans ce cas-ci, à nouveau, une fonction de Q, crochet de poisson avec une fonction de Q, c'est zéro. Il faut mélanger P et Q pour avoir quelque chose de non nul. Et donc ça, c'est aussi une théorie qui va obéir à la même relation sur les crochets de poisson, qui caractérise, comme on le verra, en se basant sur un raisonnement, disons, plus fondamental, les théories caroliennes. Ici, c'est un peu expérimentalement qu'on trouve, ça fait zéro. Ah oui, ça fait zéro là aussi. Mais il y a une bonne raison. Et on la comprendra, cette bonne raison, la semaine prochaine. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ceci clôture, en fait, la leçon de la semaine passée. Non. Attendez la fin de l'heure. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Donc ça, je ne vais pas faire. Donc s'il n'y a pas de questions, j'enchaîne sur ce dont je veux vous parler, c'est... Dans quel contexte ces structures caroliennes que je viens de parler apparaissent en relativité générale? Parce qu'après tout, la vraie théorie de la gravitation, c'est la relativité générale. On sait bien que la limite qu'on appelle newtonienne, où les vitesses sont petites vis-à-vis de la vitesse de la lumière, ça a des applications pour les expériences de tous les jours, parce que les objets se meuvent lentement par rapport à la vitesse de la lumière. Et donc, c'est pour ça que la théorie de Newton fonctionne bien. Et la théorie de Newton, c'est ce qu'on obtient quand on fait la limite C tendant vers l'infini dans la théorie d'Einstein. La limite C tendant vers zéro, elle a l'air un peu, très insolite en tout cas, pour le moins, parce que rien ne va plus vite que la lumière. Donc, faire C tendant vers zéro, quand est-ce que c'est intéressant? Quand est-ce que c'est important? Quand est-ce que ces structures apparaissent? Donc, je vais donner quelques exemples, et ça, c'est l'objet de cette leçon-ci. Oui. Je vais donner quelques exemples de structures caroliennes en relativité générale. Pour vous montrer que cette limite qui a l'air un peu ésotérique, en fait, elle est utile dans certains contextes. Bon, vous avez aussi entendu qu'il y avait des... les applications à des problèmes de matière condensée. Donc ça, je ne vais pas en parler. Ici, c'est juste, je suis quelqu'un intéressé par la gravitation. Dans quelles conditions c'est intéressant d'étudier tout ceci. Alors, le premier exemple que je vais vous donner est un exemple qui est basé sur cette remarque-ci. Donc je vous ai dit, les équations d'Einstein à la limite où les dérivées temporelles des champs, c'est-à-dire de la métrique, dominent les dérivées spatiales, se ramènent aux équations de la théorie carolienne. C'est comme si C tendait vers zéro. C était très petit par rapport aux vitesses caractéristiques du problème. Alors, on peut se demander, est-ce qu'il y a des situations physiquement réalisées où, effectivement, on peut négliger les dérivées spatiales à l'ordre zéro par rapport aux dérivées temporelles? Et la réponse est oui. Donc ça, c'est le premier exemple que je ne vais pas développer en détail, mais je vais juste vous le dire. Donc c'est la limite carolienne. Et alors, comme on a vu qu'il y en avait déjà deux de limites, donc c'est celle qui correspond à cette observation, c'est-à-dire à la limite électrique. Et singularité, donc il faut que j'explique, hein, de genre espace. Alors, je ne vais pas trop en parler, parce que ça a fait l'objet d'un cours très détaillé il y a quelques années, mais donc je vais juste ici être un peu qualitatif, dans ce sens que je vais vous dire comment ça apparaît, mais je ne vais pas le démontrer. Alors, on peut montrer que les équations de la relativité générale, les équations d'Einstein, sous des conditions très générales, impliquaient la formation de singularités. Donc c'est les fameux théorèmes de singularité qui ont été démontrés par Penrose, qui a obtenu le prix Nobel pour d'ailleurs ces théorèmes il y a quelques années, et Hawking, dont vous avez tous entendu parler, j'en suis sûr. Ils ont démontré qu'effectivement, si vous regardez les équations d'Einstein et que vous les suivez sous des conditions très générales, il y aura la formation de singularités. Quel type de singularité? Ça peut être les singularités à l'intérieur d'un trou noir, par exemple. Si vous regardez les trous noirs, il y a un horizon d'événements, bien sûr, mais si vous allez à l'intérieur du trou noir, vous verrez que le champ devient singulier, donc il y a des infinis de courbures qui se forment. Et ces singularités ont la propriété, en tout cas pour le trou noir, d'être de genre espace. Une autre singularité qui est bien connue, c'est si vous remontez l'univers dans le passé, il y a eu le Big Bang où tout était infini, donc c'est une singularité. Et Penrose et Hawking se sont posé la question, est-ce que c'est inévitable ou pas évitable, c'est générique, pas générique. Et ils ont montré que c'était générique. Donc, sous des conditions très générales, donc cette singularité n'est pas un accident du fait qu'on a imposé beaucoup de conditions de symétrie pour se faciliter la vie, parce que sinon on ne peut pas résoudre les équations. Même dans des situations, dans une situation générique, les singularités existent. Et à nouveau, cette singularité est de genre espace. Alors, évidemment, la bonne interprétation de ces singularités, c'est que c'est des singularités qui apparaissent dans la théorie classique. Et avec des courbures qui deviennent énormes, et donc on s'attend à ce que les effets quantiques soient importants. Donc ces singularités, on n'y croit pas trop, parce qu'on se dit, avec la théorie quantique, on comprendra mieux, mais il n'existe pas de théorie quantique de la gravitation qui permette réellement d'adresser cette question à l'heure actuelle. Et on peut donc se poser, juste pour mieux comprendre la structure des singularités, même dans le cas classique, est-ce qu'on peut dire des choses sur la structure de ces singularités? Est-ce qu'on peut comprendre comment la géométrie évolue quand on s'approche de la singularité? Et c'est une question qui a été analysée par des cosmologistes russes. Tout d'abord, il y avait Kalatnikov et Lifshitz. Kalatnikov est fort connu pour ses travaux sur la superconductivité, mais il a aussi fait des travaux en cosmologie avec Lifshitz, qui était un cosmologiste. Ils ont été rejoints plus tard par Belinsky. Et donc, c'est des travaux qu'on a, c'est ce qu'on appelle les travaux de Belinsky, B, Kalatnikov et Lifshitz, BKL. Et ils ont montré qu'au voisinage de ces singularités, précisément, on se trouvait dans cette situation-ci. C'est-à-dire que c'est une explosion violente et les choses se développent dans le temps beaucoup plus vite qu'elles ne varient dans l'espace. Il existe donc des situations, des solutions des équations d'Einstein qui peuvent être approchées par les solutions des équations de Carroll. Alors tout l'intérêt, évidemment, c'est d'essayer d'aller au-delà. Donc on a la solution à l'ordre zéro, est-ce qu'on peut introduire faire des développements? C'est très compliqué, mais en tout cas, il y a un fait qui existe. À l'ordre zéro, prendre une solution des équations de Carroll, c'est bon quand on est près de la singularité. Alors, les choses sont, comme toujours en relativité générale, un peu plus compliquées que ça. Je simplifie très fort, mais l'idée, c'est quand même essentiellement cela. En fait, on peut démontrer que c'est une bonne approximation pour un intervalle de temps fini. On peut se poser la question, est-ce que quand on monte vers la singularité, c'est une bonne approximation? Pour la gravitation pure, pas, mais si on met de la matière, ça l'est. Donc, enfin, la morale de cette histoire, c'est que Carroll, c'est une bonne approximation pour la gravitation couplée à la matière. Et quelle limite de Carroll? La limite électrique, celle qui correspond à des dérivées temporelles qui explosent. Alors tout explose évidemment au voisinage d'une singularité, mais elles explosent plus vite, et on peut donner un sens quantitatif à ça, que les dérivées spatiales. Bien, donc ça c'est la première application. Donc comme je vous ai dit, je suis assez court ici. Simplement parce que j'en ai déjà parlé et puis il faut bien faire des choix. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Mais donc ça, c'est vraiment toute une machinerie qui a été développée et qui a de belles propriétés, qui en plus fait apparaître des symétries auxquelles on ne s'attend pas. Donc c'est assez riche comme sujet, mais c'est un autre cours. Alors un autre endroit où les structures caroliennes apparaissent, et c'est sans doute cela qui a suscité l'énorme intérêt récent pour ces structures, oui, parce que les travaux de BKL, ça date. Hein. Bon, ça a été remis au goût du jour parce qu'on a trouvé des structures de symétrie supplémentaires, mais BKL, c'est réellement les années du siècle dernier, 70, je dirais. Mais c'est à un moment donné où les cosmologistes, c'est vraiment dans le cadre de cosmologie que cette question s'est posée et que les gens se sont rendus compte que les dérivées temporelles dominaient et que c'était une bonne approximation de laisser tomber en première approximation les dérivées spatiales. Bon, l'autre endroit enfin, dont je vais parler où ces structures caroliennes apparaissent, et c'est ça qui a suscité beaucoup d'intérêt, c'est associé à des hypersurfaces nulles dans Einstein, donc dans des solutions des équations d'Einstein, dans des métriques, disons, pseudo-riemanniennes. On peut construire ce qu'on appelle des hypersurfaces nulles, je vais préciser ça tout de suite, et on peut montrer que naturellement, une partie de la structure carolienne, ou quelque chose qui est très étroitement lié à la structure carolienne, je vais être précis, c'est le but de la leçon d'aujourd'hui, peut être construite. Et en particulier à l'infini, dans le cas des espaces asymptotiquement plats, il y a naturellement une structure carolienne conforme qui apparaît. Et pourquoi ça a suscité beaucoup d'intérêt? Parce que c'est lié à l'holographie dans le cas des espaces asymptotiquement plats. Et on pense que donc le groupe de Carroll conforme, appelé aussi groupe BMS, joue un rôle important. Donc ça, c'est ce que je voudrais vous expliquer. Donc, on va d'abord parler de surface nulle, pas nécessairement à l'infini, en relativité générale. Et puis, on va passer à l'infini. Qui est l'infini de Jean-Lumière. Alors là, ce n'est pas directement les équations d'Einstein qu'on va regarder, c'est réellement voir si la structure carolienne apparaît et comment elle apparaît. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hypersurface ? Oui, donc très souvent, j'utilise le terme surface pour hypersurface, donc une surface de codimension 1, donc, de la, donc à 3, une variété à 3 dimensions plongée dans l'espace-temps à 4 dimensions. Mais je ne dirais pas toujours hyper. Donc même ici, je devrais dire, je pense réellement à des hypersurfaces nulles en relativité générale. Donc là, je considère une métrique pseudo-riemannienne. Donc l'espace-temps tel qu'on le connaît. Et je considère une hypersurface que je vais appeler sigma, et je suppose qu'elle est d'équation f de x alpha est égal à 0. Donc c'est une hypersurface. Donc ça c'est l'espace-temps, et ça c'est mon hypersurface sigma. Alors je dirais que cette hypersurface est une hypersurface nulle. Si et seulement si, en tout point de cette surface, les vecteurs orthogonaux sont aussi tangents. Donc en général, en géométrie euclidienne, ça n'arrive pas. Si je prends un plan dans l'espace euclidien à 3 dimensions, la normale n'est jamais tangente. Et donc, si et seulement si, les normales sont tangentes. Alors je dis les normales parce que je ne les ai pas normalisées. Donc c'est, en fait, c'est une direction normale. Bon, il y en a autant que de réel, hein. La longueur n'est pas précisée. Donc si si la direction normale est également tangente. Orthogonale, normale, et tangente. Donc un exemple, mais on va préciser en général. Si vous prenez en un point, de Minkowski, le cône de lumière, vous pouvez montrer que les rayons de lumière qui viennent de l'origine sont à la fois normaux et tangents. Donc c'est un exemple. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes d'équation ? Mais d'abord, on va regarder ce qui détermine les vecteurs tangents. Donc on dira qu'un vecteur E mu, donc on ne sait pas qu'on dira, avec un vecteur E mu est tangent, ben, si et seulement si, lorsque vous prenez, parce que j'ai défini la surface comme ça, si lorsque vous prenez la dérivée de f dans la direction du vecteur E mu, la valeur de f ne change pas, c'est-à-dire donc la dérivée de f dans la direction E mu est égale à 0, en tout cas sur sigma. Et toutes mes équations sont écrites sur sigma. Si et seulement si, E mu d mu f est égal à 0. Donc ça, c'est ce qui me définit les vecteurs tangents, toujours. Alors, ça c'est combien d'équations ? C'est une équation, je somme sur mu, pour, ben ça c'est un vecteur, ça a 4 composantes. Je suppose que le gradient n'est pas nul, donc c'est une équation pour 4 composantes, donc j'en déduis qu'il y a 3 solutions linéairement indépendantes en chaque point. Que je peux appeler, par exemple, je fais un choix, E, mu, I égale 1, 2, 3. Donc je mets l'indice entre parenthèses, ça c'est le numéro du vecteur, mu, c'est la composante dans mon système de coordonnées. Alors, on va dire maintenant qu'un vecteur est orthogonal. N mu est orthogonal. Si et seulement si, son produit scalaire avec les vecteurs tangents est égal à 0 pour tout vecteur tangent. Donc si et seulement si, N mu E nu i, là ça fait intervenir la métrique évidemment, on peut parler d'orthogonalité On peut parler de vecteur tangent sans avoir besoin de métrique, mais pour parler de produit scalaire, il faut une métrique. Égale à zéro. Alors ça, c'est combien d'équations? C'est trois équations. Donc, on obtient bien une direction orthogonale. Donc, ces trois équations linéairement indépendantes, parce que les E sont linéairement indépendants et que la métrique pseudo-riemannienne est non dégénérée. Donc ça, j'ai bien trois équations qui pour quatre composantes. Donc, il y a une composante à un facteur près, donc une direction. Une direction normale. Donc, orthogonale ou normale, c'est pareil, hein. Alors, dans l'espace euclidien, on peut démontrer que le vecteur orthogonal est linéairement indépendant des vecteurs tangents. Mais ici, comme la métrique est de signature minkowskienne, ce n'est pas nécessairement le cas. En fait, je prétends deux choses. Tout d'abord, que n mu égale g mu nu d nu f est orthogonal. Mais voyons, ça c'est toujours le cas. Alors ça, comment on le voit? On calcule. N mu, il faut vérifier ça. Nu i g mu nu, c'est égal par définition à g. Alors on va faire attention de ne pas utiliser deux fois les mêmes indices. Donc g mu rho d rho f. E nu i, g mu nu. Vous voyez que ça, avec ça, sommé sur mu, ça me donne un delta rho nu. Donc ceci, c'est E nu i d nu f. Puisque E est tangent, c'est zéro. Donc en fait, c'est facile de trouver la direction orthogonale. Lorsqu'on a l'équation sous forme là, on prend simplement le gradient de f et on élève l'indice avec g. Alors, sigma est nul si et seulement si n mu est également tangent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que n mu est tangent? Ça veut dire que si vous prenez la dérivée de f dans la direction de n mu, vous obtenez 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n mu d mu f est égal à 0, c'est-à-dire n mu est égal à 0. Hein, parce qu'en fait, si j'abaisse l'indice ici, on voit que n mu, c'est juste d mu f. En d'autres termes, une hypersurface est nulle si et seulement si les vecteurs orthogonaux à cette hypersurface sont des vecteurs de genre lumière, c'est-à-dire dont la norme carrée fait 0. Alors, il est très facile que si vous avez une hypersurface nulle, la métrique induite sur cette hypersurface est dégénérée. Dégénéré. On va juste utiliser le fait que n mu, puisque n mu est tangent, il peut s'écrire comme une combinaison linéaire de vecteurs tangents de base pour certains coefficients que j'appelle ni. Mais d'autre part, il est aussi orthogonal, donc je sais que n mu g, produit scalaire avec e nu i, pour tout i, c'est égal à 0. Maintenant, je remplace n mu par sa valeur, donc c'est ni e mu i nu. Oui, puisque j'ai utilisé I comme indice de sommation, mettons un J ici pour ne pas se mêler les pinceaux. Donc E nu J, G mu nu, c'est égal à 0. Or, ceci, le produit scalaire des vecteurs tangents de base, c'est juste la métrique induite. Donc, ce qu'on peut appeler G, I, J. Mais donc, vous voyez que la métrique induite possède une direction qui est précisément telle qu'elle est annihilée. Donc, il existe un vecteur tangent orthogonaux à tous les autres. Bon, c'est bien dire que la géométrie est dégénérée. Donc, cette partie de la structure carolienne qui est une métrique dégénérée, dès que vous considérez une hypersurface nulle, et c'est intéressant, les hypersurfaces nulles, eh bien, elle est présente. Donc, toute hypersurface nulle de l'espace de Minkowski ou de l'espace pseudo-riemannien possède une métrique dégénérée, donc possède une grande partie de la structure carolienne. Maintenant, il faut encore voir si on a une normalisation naturelle du vecteur normal, de n mu. Donc, pour avoir une structure carolienne complète, il faut non seulement la métrique dégénérée, mais il faut aussi le vecteur nul, normalisé, savoir comment on calcule les volumes. Alors, en général, il n'y a pas de normalisation naturelle, il n'y a pas de structure supplémentaire. Donc, il faut la mettre à la main. On peut faire des choix et compléter la structure en disant ben, je vais décréter tel vecteur, vecteur 1, dans la direction nulle, et me baser là-dessus. Mais en général, même si on peut faire des choses, on peut montrer qu'il y a quand même des choses intéressantes, que les lignes intégrales, les courbes intégrales du vecteur n mu sont des géodésiques, donc on peut choisir un paramètre géodésique sur chacune, mais un paramètre affine, mais le paramètre affine ici et le paramètre affine là, en général, il n'y a pas de manière de les comparer, sauf s'il y a symétrie sphérique et on peut utiliser la symétrie pour, une fois qu'on a normalisé ici, normaliser là-bas. Donc s'il y a des structures supplémentaires, on peut naturellement résoudre ce problème, mais en général, une hypersurface nulle quelconque n'aura qu'une partie de la structure carolienne. Bon. Néanmoins, donc je vais sauter cette histoire de géodésie, je ne vais pas le démontrer ici, c'est un peu vu le temps. Néanmoins, on peut démontrer que l'infini de genre lumière, et c'est ce que je vais faire maintenant, possède naturellement une structure carolienne, alors je dois être plus précis, une structure carolienne conforme. Mais on a à la fois G et on a à la fois N, mais les deux ne sont déterminés qu'à un facteur conforme près. Mais les deux sont là, à ce même facteur conforme près. Et ça, c'est ce que je voudrais démontrer maintenant et vous montrer comment ça marche. En d'autres termes, oui, donc aussi pour être réaliste, ça veut dire que la deuxième partie, donc ce dont je voulais aussi vous parler, qui est des déformations des algèbres cinématiques, probablement que ça va être réduit à une très simple expression. C'est un peu un sujet à part, donc ce n'est pas très grave. Parce que je vais clairement continuer à la deuxième heure ce que je vais commencer maintenant, à savoir vous montrer que que l'infini de genre lumière possède une structure carolienne conforme courbe, que la symétrie de cette structure, c'est le groupe de Carol conforme, et ça, c'est fort intéressant, pour des raisons qu'on va comprendre. Donc, je fais de la place. Pendant que j'efface le tableau, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc peut-être avant, et ce sera peut-être c'est une bonne manière d'utiliser les 10 minutes qui restent, avant l'interruption, je vais peut-être d'abord définir ce que c'est que le groupe de Carol conforme. Et puis on va voir pourquoi c'est intéressant en termes de géométrie plus tard. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une transformation conforme ? C'est une transformation où on multiplie la métrique. Donc maintenant, la métrique ici, c'est la métrique de Carroll. Hein. Donc c'est une métrique dégénérée, ce n'est pas une métrique pseudo-euclidienne. Donc j'ai alpha, bêta, une transformation conforme, mais on la multiplie par un certain facteur. Donc on considère une nouvelle métrique qui est, et je prends des conventions standards, oméga carré, j'ai alpha, bêta. On appelle oméga le facteur conforme. Et on va supposer que le volume ou la normale, je l'écris peut-être en termes de la normale, se transforme aussi. Alors là, je vais d'abord l'écrire et puis je vais faire des commentaires. Se transforme avec le même facteur conforme à une autre puissance, en fait, moins 1, n alpha. Alors deux commentaires. Avant d'aller plus loin, ben même 3, on peut considérer des généralisations où la puissance ici est différente. Au moins 1, les gens ont regardé moins 2, moins 3, plus 5. Bon, on peut ne pas fixer ça. Le cas qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et ça correspond à une isotropie du point de vue transformation conforme de l'espace et du temps. Vous pouvez démontrer qu'avec ce choix-là, ça revient à supposer que l'élément de volume se transforme comme un élément de volume, comme se transformerait racine de moins g qui est non nulle dans ce cas-ci, c'est-à-dire avec oméga 4 à 4 dimensions. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3 commentaires, en fait j'en ai que 2. L'autre, c'est que cette définition ne dépend pas de la dimension. Donc je me suis placé à 4 dimensions, mais je vais devoir me placer aussi à 3 dimensions, puisque les hypersurfaces, c'est à 3 dimensions. Une transformation conforme, c'est défini de la même manière, quelle que soit. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de référence à la dimension ici. Donc je me placerai sans doute directement à 3 dimensions, puisque dans les calculs, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transformation de Carroll conforme ? C'est une transformation de coordonnées qui est telle que dans les nouvelles coordonnées, la métrique se relie à l'ancienne métrique par un facteur conforme. Donc, sous forme infinitésimale, si je calcule la dérivée de l'i de la métrique, elle n'est pas invariante, donc ce sera l'algèbre conforme, donc on passe à l'algèbre, on regarde les choses de Carroll conforme. Bien, si vous calculez la dérivée de l'i de la métrique, vous n'obtenez pas 0, ça ce serait une vraie isométrie, vous obtenez la métrique à un facteur près. Donc vous allez obtenir la métrique, et je mets le facteur infinitésimal, puisqu'il y a un 2 ici, qu'on regarde les choses infinitésimalement, ça fera 2 alpha, où j'appelle alpha, je développe 1 oméga en 1 plus alpha, et donc j'obtiendrai ça. Et pour la normale, on a ça, avec le même facteur alpha, mais avec un signe moins, parce que j'ai un moins 1 là. Donc on a envie, l'algèbre de Carroll conforme, c'est l'algèbre des champs de vecteurs qui obéissent à ces propriétés. Alors à nouveau, on peut très facilement intégrer ces équations. Et je vais le faire avant l'interruption. Et on va. Et donc, en fait, ici, je me place dans l'espace de Carroll plein. Hein. Oui, donc. Bon, on peut définir ça pour n'importe quel espace de Carroll, mais donc, ce qu'on appelle le groupe de Carroll conforme, c'est pour la métrique plate, c'est-à-dire dans des coordonnées carolliennes, dans une base carolienne, 0, 0, 0, delta AB, et N alpha est égal à 1, 0, 0, 0. Alors, c'est facile à résoudre, mais résolvons quand même. Donc la dérivée de l'i de n alpha, je ne l'ai pas écrite, mais enfin, je vous l'avais écrite tout à l'heure. Donc, c'est xi rho n alpha virgule rho moins xi rho xi alpha rho n rho ça doit être égal à moins alpha n alpha. Alors vous voyez que n ne dépend pas des coordonnées, donc ça c'est nul. Et ici c'est la dérivée temporelle. Donc cette équation se ramène à moins xi alpha 0 est égal à moins alpha n alpha. Et donc pour alpha égal à 0, ben, ça ne vous dit rien. C'est moins alpha, en fait, ça vous dit quel est le lien entre alpha et ça. Et par contre, quand, pour les dérivées spatiales, comme nA est égal à 0, pour la partie spatiale, vous obtenez que les dérivées par rapport à la coordonnée x0 d'xia, c'est égal à 0. Donc les xia ne peuvent pas dépendre de la coordonnée de temps. Alors si maintenant je regarde l'autre équation, oui, j'avais appelé en fait cette métrique, la métrique plate, on lui avait donné un nom gamma alpha bêta, donc gardons ce nom gamma alpha bêta. Écrivons. Donc il y a d'abord le terme de dérivée ordinaire, mais qui n'est pas covariant à lui tout seul, donc ça doit être complété, plus xi rho alpha gamma rho bêta, plus xi rho bêta gamma alpha rho. Ça, ça doit être égal à pardon, pas égal à 0, mais à 2 alpha gamma alpha bêta. Alors, à nouveau, si l'un des indices est égal à 0, il n'y a pas grand-chose parce que si un des indices est égal à 0, gamma est nul. Si bêta est égal à 0, ça fait 0. Donc supposons bêta égal à 0 et alpha on ne sait pas. Donc bêta égal à 0, rien. Donc c'est quand bêta est ici qu'on a éventuellement quelque chose. Mais vous voyez que si bêta est ici, on aura quelque chose que lorsque l'indice rho est latin et l'indice alpha doit être latin aussi, sinon c'est 0. Donc, si rho est latin, c'est que si r, 0, mais ça, on vient d'apprendre que c'était nul. Donc, en fait, il n'y a rien, sauf lorsque je fais alpha égale A et B, bêta égale B. Alors, à quoi ça se réduit dans ce cas-là? Xi rho, gamma AB, oui, donc ça n'a rien du tout, puisque la métrique est constante. Donc, écrivons que les termes importants. Xi r, A, gamma RB, qui est delta RB, donc écrivons même delta, plus xi R, B, delta AR, est égal à moins 2 alpha delta AB. Et ça, c'est l'équation qu'on appelle l'équation de Killing conforme dans l'espace. Donc, si je me place à 4 dimensions, ce serait l'équation de Killing conforme à 3, mais je vais me placer, comme je vous l'ai dit, à 3 dimensions, parce que ceci va être réalisé sur une hypersurface de mon espace de Minkowski, de mon espace de ma variété riemannienne asymptotiquement plate. Donc ça va être une hypersurface à 3 dimensions. Donc ceci, ça va être l'équation de Killing conforme à 2 dimensions. Alors ça, c'est l'espace euclidien à 2 dimensions. Alors ça, c'est quelque chose qui a été étudié par les mathématiciens et par beaucoup de personnes depuis très longtemps. Et donc on connaît la solution. C'est le groupe conforme. Alors je vais prendre le groupe conforme où il n'y a pas de singularité. Donc c'est le groupe conforme à 2 dimensions. Et donc les vecteurs, ben, je vais vous les écrire. Les solutions générales de cette équation, c'est... Ben, on a évidemment les isométries de l'espace euclidien à 3 dimensions, c'est-à-dire les translations. Et puis... la rotation, puisqu'on est à 2 dimensions. Donc, 2 dimensions d'espace. Mais alors, il y a des choses en plus. Il y a d'abord des dilatations. Vous pouvez voir que si xi a cette forme-là, vous allez obtenir un lambda et alpha va être lié au lambda. Et puis, à ce qu'on appelle les... ce qui correspond au boost, en fait, conforme, KA XB, XB, donc la norme du vecteur, moins 2KB, XB, XA, où K est une constante quelconque. Donc ça, c'est une constante, enfin, c'est deux constantes, donc j'en ai deux. Ça, c'est antisymétrique, à deux indices, donc j'ai une constante. Là, j'en ai une, et là, j'en ai trois. Donc c'est un groupe qui, pardon, 2, puisque c'est d'espace, fait 2 plus 1, 3, plus 1, 4, plus 2. Il y a 6 paramètres. Et en fait, on peut montrer qu'il est isomorphe à SO3,1. Alors, la propriété de ces transformations-ci, c'est, donc là, de celle-ci, c'est que alpha est égal à 0. C'est des vraies isométries. Donc ça, c'est égal à 0, point. Par contre, ici, alpha est différent de 0 et est donné par, ça, vous pouvez faire le calcul, hein, il suffit d'injecter ça là-dedans et de regarder alpha, par lambda est égal à, pardon, lambda, moins 2kcxc. Alors, a priori, ces coefficients, puisqu'on a résolu ça à un instant donné, pourraient dépendre du temps, mais l'équation-là nous dit qu'ils ne peuvent pas en dépendre. Donc, c'est des constantes, ce n'est pas des fonctions du temps. Alors, connaissant alpha, on peut résoudre la dernière équation, qui est celle-ci, xi0. Donc, la dérivée de xi0 par rapport au temps doit me donner alpha. Alpha est déterminé là, et donc on peut intégrer, c'est très facile. Ça ne dépend pas de x0, donc l'intégration de ça, c'est juste multiplié par x0. Et donc finalement, donc ça c'est la partie spatiale, xi0. Et évidemment, il y a une constante d'intégration qui peut dépendre de x. Donc je vais avoir fonction dxi, qui est la constante d'intégration par rapport à temps, plus lambda moins 2 kcxc fois x0 que à la deuxième heure j'appellerai u. Et vous verrez pourquoi. Bon, donc on a déterminé le groupe conforme de Carol. Et vous voyez qu'il y a une partie qui est finalement relativement familière, le groupe conforme de l'espace à deux dimensions, mais il y a également des fonctions en nombre infini qui apparaissent. Pardon, un nombre infini. On a une fonction qui apparaît, mais ça correspond à une infinité de paramètres. Donc c'est un groupe infini, une algèbre de Lie infinidimensionnelle, puisque l'espace des fonctions est infinidimensionnel, pour être plus précis. Alors, je l'ai fait dans le cas de la variété qui est le plan. Donc ceci, j'ai supposé que c'était le plan. Mais maintenant, il est clair que la notion de transformation conforme est invariante si je change la métrique par une transformation conforme. Hein, tout sera simplement rescalé par l'oméga. Et donc si au lieu du plan, je considère la sphère qui est aussi conforme, j'arriverai à la même conclusion. Et c'est réellement ce cas-là qui va nous intéresser pour l'infini de Jean-Lumière après l'interruption. Donc, pour des raisons encore mystérieuses, maintenant, en ce sens qu'elles ne sont pas encore très motivées, j'ai défini le groupe conforme à trois dimensions et je l'ai analysé. Vous allez voir que c'est exactement la structure qui apparaît quand on se place dans une variété riemannienne asymptotiquement plate. Voilà, donc là, la motivation viendra après l'interruption. Donc, si vous avez des questions, c'est le bon moment. Sinon, on fait une pause d'une demi-heure, enfin, d'une demi-heure moins 4 minutes, on reprend à 16 heures. Voilà, des questions ? Bon, à tout à l'heure, alors.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.